بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La khutba du jour porte sur l'apprentissage de l'islam et comment s'y prendre. Alors tout d'abord, alhamdulillah, alhamdulillah, alpha alhamdulillah, merci à Allah de nous avoir offert ce cadeau d'internet. C'est une énorme ni'ma, un énorme cadeau, et alhamdulillah, on a accès à une connaissance jamais vue, incroyable. On a accès à une diversité que nos prédécesseurs n'avaient jamais eue. Nous pouvons avoir accès à la sagesse d'autres cultures, d'autres peuples en un instant. Des choses que les gens à l'époque mettaient des années, voire toute une vie à récolter, à avoir, à amasser. Et alhamdoulilah, de nos jours, tout est là. Donc c'est un énorme cadeau et on remercie Allah pour ce cadeau. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un inconvénient, car le musulman, par exemple, quand il veut apprendre sa religion, il a accès à tout et à n'importe quoi, à tout niveau, tous les niveaux mélangés, à toutes les sciences, tous les aspects de la science, de la connaissance sacrée mélangée, et du coup il peut se perdre. Mais l'islam est comme tout autre apprentissage en fait. On a besoin d'y aller par étapes, on a besoin de passer des niveaux et de commencer avec le début et finir à la fin, et pas commencer avec la fin et finir avec le début. Et de nos jours, beaucoup de musulmans en fait lisent commence par lire des livres qui sont réservés en fait aux gens qui ont déjà une connaissance bien avancée en fait dans l'islam. Et ils ne se préoccupent pas de commencer par le début, qui est essentiel en fait, parce qu'il faut vraiment avoir des bases et des fondations bien solides pour pouvoir avancer dans l'apprentissage de l'islam. Car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait dit, l'islam est un océan, en fait, il y a énormément de choses, donc il faut y aller pas à pas et y aller par étapes. Donc, de ce fait, on a besoin, en fait, d'une trajectoire. Donc, je vais essayer, en fait, dans cette khutba de vous donner une trajectoire pour commencer l'apprentissage de l'islam. Après, bien sûr, les toulab ou l'ilm, les étudiants de la connaissance sacrée, savent ce qu'ils doivent faire parce qu'ils sont sous le joug d'un enseignant, d'un cheikh, d'une oustada, ils sont guidés automatiquement. Mais tout d'abord, c'est vrai que tout d'abord, la première chose vraiment, le premier point, avant de commencer par les différentes catégories, c'est qu'il faut avoir un enseignant. Il faut avoir un enseignant. L'idéal, bien sûr, c'est d'avoir énormément d'enseignants. Mais il faut vraiment commencer avec quelqu'un et pas tout seul. On ne peut pas apprendre l'islam dans les livres tout seul ou sur internet tout seul. Non, il faut un enseignant, il faut quelqu'un qui nous guide, qui nous explique. Parce que tout, on a besoin de la connaissance sacrée à travers la sanad prophétique, la chaîne prophétique. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'apprendre avec des gens qui ont appris de gens, 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 qui comme ça en fait remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est évident qu'il y a... On est, alhamdoulilah, on est très nombreux, les musulmans, alhamdoulilah, on est une oumma très nombreuse, très grande. Mais il y a aussi des gens qui enseignent l'islam, en fait, sans dalil, en fait, sans source, sans preuve. Il y a des gens qui utilisent des on-dit ou qui enseignent l'islam à travers leur culture et pas à travers les sources de l'islam. Il y a des gens qui se basent sur des hadiths extrêmement, extrêmement faibles, voire maudour, fabriqués carrément, et enseignent l'islam à travers ça. Après, voilà, utiliser des hadiths faibles ou très faibles pour certaines choses dont je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est possible, mais pas quand on enseigne la religion, pas quand on parle de fiqh, quand on parle de ibadat, quand on parle de salah. Non, là, ce n'est pas possible. Il faut vraiment s'appuyer sur les fondations, les preuves. Donc c'est pour ça qu'il est important. Il y a beaucoup de groupes dans l'islam, il y a beaucoup de manières d'enseigner l'islam, il y a énormément de hadiths. C'est pour ça que c'est primordial d'avoir un enseignant, parce qu'encore une fois, on peut vite se perdre. Alors la première chose, vraiment la première chose, l'essentiel en fait dans cette trajectoire, quand on a l'enseignant, alhamdoulillah, c'est vraiment de travailler sur ses intentions. L'intention en islam est vraiment la base. Avec l'intention, on peut transformer des actions du quotidien en ibada. Donc, comme le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le dit, on sera jugé et récompensé en fonction de nos intentions. Donc, toute la journée, en fait, on devrait avoir des intentions qui nous élèvent. Donc il faut voir grand, vraiment voir grand et pas faire les choses machinalement, mais vraiment toujours avoir Allah, l'Akhira et le bien-être, notre bien-être et le bien-être de la communauté. Donc par exemple, avant de manger, on peut avoir l'intention déjà bien sûr, on remercie Allah, on a l'intention d'apporter une shifa, une guérison physique à notre corps, voilà, que cette nourriture nous guérisse de nos maladies, même si on n'en a pas, ou même si on ne sait pas si, enfin, on sait pas forcément si on en a, mais ça peut être aussi une nourriture qui nous guérit spirituellement. On peut aussi avoir l'intention que qu'Allah apporte ce même repas à quelqu'un dans le monde qui en a besoin, qui réponde aux doigts de la personne qui veut à manger, par exemple. Enfin bref, on fait de grandes intentions. Quand on sort, par exemple, on a l'intention de faire, bien sûr, on dit le doigt pour sortir, mais on a aussi on a l'intention de faire du bien, de remercier Allah pour ses bienfaits, d'aider des gens s'il y a besoin, d'être généreux. Si, par exemple, on va au magasin, voilà, quand on achète quelque chose pour soi, bah, qu'on l'achète en double ou en triple pour le donner à quelqu'un, même si ce sont des gens qu'on ne connaît pas. Voilà, enfin, avoir toujours l'intention de faire le bien. Et même si on ne le fait pas, pour une raison ou pour une autre, parce que bien sûr, en tant qu'humain, on est limité, on ne peut pas faire tout ce qu'on a en tête, mais alhamdoulilah, on aura quand même la récompense, parce que le plus important, c'est ce qui sort du cœur. C'est vraiment parce que c'est ça en fait, c'est la base, c'est le berceau, c'est vraiment le berceau de l'intention, le cœur. Donc si l'intention est bonne, alhamdoulillah, Allah sait que le cœur est bon. Et si on peut le faire, alhamdoulillah, c'est bien, c'est encore mieux. Mais parfois on ne peut pas tout faire, donc vraiment l'intention est primordiale. Alors le deuxième point, ce sont les doigts. Il faut absolument commencer avec les doigts, mémoriser les doigts, tous les doigts que l'on a besoin au quotidien. Quand on se réveille, quand on entre aux toilettes, après ses ablutions. Bien sûr, quand on sort des toilettes avant de le faire après les ablutions, parce qu'on n'est pas censé dire le nom d'Allah dans les toilettes. On sort des toilettes d'abord et on dit le nom d'Allah. À part, bien sûr, si c'est juste une salle de bain. Si c'est juste une salle de bain, c'est bon, mais s'il y a les toilettes dedans, non, on évite. On sort de la salle de bain, on dit les toilettes de, on dit les doigts, pardon, que l'on a besoin de dire après de sortir des toilettes et aussi après le wudu. Ensuite, il y a des doigts encore après la prière. Il y a des doigts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on met de nouveaux habits, quand on offre quelque chose à quelqu'un, quand on sort, quand on revient, quand on entre dans la maison, il y a des doigts vraiment pour tout. Et c'est important que le musulman ait tous ces doigts. Parce que, premièrement, les doigts sont lumière, ils sont protection, ils sont des hasanats. Allah nous donne de bonnes actions à chaque fois qu'on dit des doigts. Parce qu'on pratique la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est du dhikr. On répète les noms d'Allah, on demande protection, on fait même parfois des salawats dans les doigts. Donc tout ça apporte lumière sur lumière. Et l'être humain est très fragile, on a besoin de protection, on est très vulnérable, surtout la nuit. Donc il faut vraiment réciter ses doigts avant de dormir, dormir avec le wudu. Parce que voilà, il y a d'autres mondes autour de nous. Et ces mondes-là entrent dans notre monde. Et nous, on ne les voit pas forcément, en fait. On n'a pas forcément accès à leur monde, mais eux, ils ont accès à nous. Donc, il faut vraiment faire attention. Après, ça protège aussi du mal des gens, des êtres humains. Ça protège des maladies, des calamités. Enfin, tout ça, c'est de la lumière, en fait. Hein. C'est pas... Il y a beaucoup de bénédictions à dire les doigts. Le troisième point, c'est la sira. Alors, la sira, donc la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est extrêmement importante, car on ne peut pas aimer quelqu'un si on ne le connaît pas. Et on a besoin vraiment de se plonger dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiallahu anhum, pour vraiment s'identifier à eux. La sira, bon, alhamdoulilah, c'est facile. Hein. Tout le monde a accès à la sira, petit, grand, indien, français, anglais, elle est dans toutes les langues, dans tous les supports. On peut écouter, on peut lire, on peut assister à une leçon. Alhamdoulilah, la sira, alhamdoulilah, que ce soit disponible pour tout le monde. Donc ça, c'est primordial, en fait, parce que si on se base sur les on-dit, sans vraiment avoir les bonnes bases, en fait, de la sira, on peut avoir affaire à un personnage que l'on ne connaît pas du tout et penser qu'en fait c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce sont ses compagnons. Mais comme dans tout en fait, il va y avoir des passages qui sont faciles à accepter et d'autres un peu moins parce que c'est une autre culture. Mais on a besoin d'apprendre tout ça dans le bon contexte, avec un enseignant, avec des explications. Après, c'est vrai que pour la sira, c'est vrai qu'on peut, en plus d'avoir un enseignant, faire beaucoup d'autres choses tout seul, parce qu'il y a énormément de choses sur Internet. Il y a de bonnes sources, alhamdoulilah, on peut lire et écouter et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas juste prendre des bribes ici et là, en fait, en pensant que ça y est, on connaît le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pensant qu'on sait tout, et que voilà, parce que moi j'ai entendu ça, toi ce que tu dis, c'est une bid'a, ou c'est haram, ou c'est si. Non, pas du tout, la sira est extrêmement vaste, et l'islam est extrêmement vaste, encore une fois, donc on ne peut pas se baser juste sur un livre ou deux qu'on a lu, ou voilà, un cours de sira d'un an, et ça y est, on sait tout. Non, non, c'est très très vaste en réalité. Mais c'est vrai que c'est plus facile, parce qu'on y a beaucoup plus accès, et il y a beaucoup, comme la sira fascine, a fasciné les ulémas depuis la nuit des temps, enfin depuis le début de l'islam. C'est vrai qu'il y a énormément de livres, il y a énormément de perspectives, donc c'est très intéressant. Et c'est vrai que même si on a fait, si on étudie la sira depuis des années et des années, même si on a lu des livres en arabe, même si voilà on s'est plongé dans les sources, il est vrai qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau. Suivant l'enseignant, en fait, parce que l'enseignant va apporter son expérience, va apporter sa sagesse, va apporter ses histoires à lui. Donc, on va pouvoir s'identifier, en fait, d'une autre manière à tel compagnon ou à telle compagne. Et c'est une expérience fabuleuse, en fait, de pouvoir revenir en arrière, revenir au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et essayer de s'identifier à eux. Alors, ensuite, le quatrième point, c'est d'apprendre à lire l'arabe. Alors, lire l'arabe, c'est essentiel. La majorité des musulmans de ce monde ne sont pas arabes, mais malgré tout, une grande, grande, grande partie de cette majorité lit l'arabe. Ils savent lire le Coran, et très bien en plus, parce qu'ils apprennent depuis l'enfance. Ils apprennent le tajwid, ils sont très bons dans le tajwid. Par exemple, je pense aux Pakistanais, aux Turcs, aux Malaisiens et à beaucoup d'autres cultures. Même s'ils ne comprennent pas en fait le Coran, même s'ils ne comprennent pas l'arabe, ils le lisent. Parce que lire le Coran, c'est une ibada, et c'est une ibada qui est extrêmement importante. Parfois, les gens pensent peut-être que c'est optionnel, mais ce n'est pas optionnel. On doit vraiment avoir une relation avec le Coran. Une relation où, si on a la capacité, il faut vraiment apprendre à lire l'arabe et lire le Coran. Même si c'est difficile, même si ça prend du temps avant de pouvoir vraiment lire bien et vite, mais il faut le faire parce que le Coran est une shifa, il est une guérison dans ce monde. Il est aussi une guérison dans l'autre monde parce qu'il peut être notre intercesseur dans l'autre monde si on a passé du temps avec lui et si on a été sincère. Ça peut être une lumière dans notre barzakh. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut avoir avec le Coran. Ça nous purifie la langue, la bouche. Quand on lit le Coran au quotidien, après par exemple on ne le lit pas pendant quelques jours, pour une raison ou pour une autre, on se sent seul en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui nous manque. Le Coran apporte vraiment une sakina, une paix à la personne qui le lit. Et de le lire régulièrement en fait, de le lire tous les jours et de le finir. Par exemple, enfin de le lire en lecture continue, c'est-à-dire qu'on le commence, par exemple, imaginons aujourd'hui et je le finis dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, peu importe. Et ensuite, à la fin, quand on arrive à Suratul Nas, de le continuer en fait, de revenir au début avec Al-Fatiha. Ça, en fait, ça nous donne la récompense de lire le Coran en continu. Donc, subhanallah, si on fait ça tout le temps, on aura la récompense en fait d'avoir lu le Coran en continu toute sa vie. Mais quelle récompense! Mais c'est incroyable. Enfin, parce que à chaque lettre, il y a une hasana, il y a une récompense quand on lit le Coran. Donc le Coran est vraiment primordial. Et il faut apprendre le tajwid, bien sûr. Donc le tajwid, c'est la science qui nous apprend à bien prononcer les lettres arabes et à bien prononcer et à bien réciter le Coran, parce que le Coran n'est pas un livre ordinaire, on ne lit pas un livre arabe comme on lit le Coran. Il y a des règles de tajwid, il y a des règles à respecter. Donc là encore, mashallah, c'est un héritage prophétique que l'on se doit tous en fait de prendre et de pratiquer. Après, bien sûr, il y a des gens qui vont se démarquer, qui vont devenir extrêmement bons et qui vont enseigner. Mais quel cadeau ils font pour la communauté, machin là, parce qu'on a vraiment besoin de professeurs de tajwid. On a vraiment besoin dans les pays arabes, alhamdoulilah, il y en a énormément, et dans les autres pays musulmans aussi. Mais c'est vrai que nous, dans notre culture, on n'en a pas encore tant que ça. Et il faudrait qu'il y ait plus de gens qui se mettent dès l'enfance à lire le Coran dès qu'ils peuvent, en fait, dès 4 ans, 5 ans déjà, à apprendre à lire l'arabe et ensuite faire des cours de tajwid tout de suite après. Parce que c'est vrai que l'apprentissage du tajwid est difficile. De mon point de vue, c'est une des branches de l'islam qui est la plus difficile, surtout quand on n'est pas arabe. Mais c'est primordial, c'est essentiel. Et c'est tellement important en fait, parce qu'on se doit de réciter le Coran comme le prophète le faisait. Ensuite, bien sûr, dans le Coran, il y a beaucoup de doigts, on dit amin aux doigts, on fait des doigts nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment une conversation avec Allah, le Coran, parce que le Coran, Allah nous parle à travers le Coran. Et nous, on lui répond en fait. Soit on lui parle directement, soit on pleure, soit on dit amin au doigt, soit on fait nos propres doigts. Enfin, c'est vraiment le meilleur moyen, le meilleur moyen de commencer la journée avec cette conversation avec Allah. Après, apprendre l'arabe pour le parler et le comprendre, ça, ce n'est pas obligatoire. C'est plutôt une fard kifaya, ce qui veut dire que c'est une obligation communautaire. Si quelques personnes dans la communauté le font, ça va, alhamdoulilah, ça ira. Parce qu'on a besoin de gens qui nous interprètent le contexte du Coran ou le contexte des livres anciens, qui nous expliquent la sira avec les sources. Parce que la traduction ne fait jamais l'affaire. Ça ne nous explique pas le contexte, ça ne nous explique pas la culture. Enfin, le Coran a été révélé à chaque fois. Le Coran a été révélé pour une raison particulière, pour un événement qui s'était passé, soit à La Mecque, soit à Médine. Si on lit le Coran comme ça, si on lit une traduction en français, en anglais, peu importe, on va pas avoir tout ça, on va pas avoir accès à tout ce qui se passe derrière et on va pas comprendre. Ça va même être très dérangeant en fait parfois, parce qu'on va se dire mais pourquoi Allah parle comme ça, mais Pourquoi Allah parle de ces peuples comme ça? Pourquoi ça en fait? Pourquoi ça vient ici au milieu comme ça? Les gens ne vont pas forcément comprendre, ce qui est tout à fait normal. Et en arabe, c'est pareil. Si la personne n'a pas le contexte, bah c'est pareil. Ça va pas être clair. Parce que le Coran, on peut le voir, on peut le comprendre en fait de certaines manières. Il y a des gens qui lisent l'arabe et qui comprennent l'arabe, ils vont comprendre le Coran, mais est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ce qu'Allah a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Non, s'ils n'ont pas le contexte. Donc ça c'est important. Mais après, ce n'est pas c'est pas une fard ayn, c'est pas une obligation individuelle d'apprendre l'arabe, de le parler, de le comprendre. Non, c'est pour si quelques personnes le font, alhamdoulilah, c'est bien. Ensuite, le cinquième point, bien sûr, c'est le fiqh. Le fiqh est extrêmement important. Il faut choisir un madhhab de fiqh et s'en tenir. De nos jours, alhamdoulilah, il y en a quatre seulement. Avant, il y en avait des centaines et des centaines d'écoles de fiqh. Mais ça a été réduit à quatre, donc c'est facile de choisir. L'essentiel, enfin, on va dire que c'est mieux en fait de choisir une école, l'école la plus l'école la plus répandue là où on vit. Donc, par exemple, en France, c'est le madhhab de l'imam Malik. Mais si voilà, on a étudié dans un autre pays et c'était une autre école, alhamdoulilah, on prend l'école de là où on a étudié parce que on n'aura pas forcément accès à un autre madhhab, même si c'est le madhhab que l'on a dans notre pays ailleurs. Donc il faut faire avec ce qu'il y a sur place et alhamdoulilah, ça ira très bien. Le fiqh est primordial parce qu'on a besoin de savoir comment bien prier, comment bien faire ses ablutions, ses ibadats. Il y a quand même des gens qui ne prient pas correctement parce qu'ils suivent machinalement ce que leur famille font. Et c'est devenu culturel en fait. La fondation s'est perdue au fil des ans et même peut-être au fil des siècles. Parce qu'ils n'ont pas eu de rappel et on a tous besoin de rappel. Donc il faut vraiment prendre des cours avec un prof qui nous enseigne comment prier correctement. Parce qu'il y a la aura pour les hommes et pour les femmes. Il y a une partie du corps à couvrir pendant la prière. Et il y a aussi une partie du corps à couvrir devant une certaine catégorie de personnes pour les hommes et pour les femmes. Et parfois, la aura n'est pas couverte. Durant la prière. Les hommes, parfois, ils ne couvrent pas bien leur aura et les femmes aussi. Et du coup, bah, ça invalide la prière. Mais ça, la personne ne pourra le savoir seulement que si elle prend des cours de fiqh. Elle ne pourra pas le savoir avec des gens qui n'apprennent pas tout ça parce qu'eux, ils vont dire, oh, mais c'est bon, c'est bon. Mais ils ne savent pas, ils se basent sur rien en fait. Donc, il faut faire attention à ça. C'est pareil pour le jeûne. Il y a des choses qui invalident le jeûne, donc il faut voir. Avec son madhab. Donc tout ce qui concerne les ibadat et tout ce qui concerne en fait les responsabilités du musulman envers Allah, ça tout le monde doit le savoir. C'est obligatoire. Le musulman doit savoir. Après, on ne demande pas à tout le monde d'être des ulémas, bien entendu, et on ne demande pas aux gens de pousser, de prendre des cours de fiqh pendant 20 ans et de vraiment rentrer dans tous les détails possible et inimaginable. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment la base qu'il faut. Là, je parle vraiment de la base. C'est obligatoire pour tout musulman de savoir comment bien prier, bien jeûner, les ibadat. Après, si la personne, par exemple, a envie de faire du commerce, elle est obligée d'apprendre le fiqh du commerce. Mais ce n'est pas obligatoire pour une personne qui n'en a pas envie. Et c'est pareil pour le mariage. Une personne qui veut se marier, qui a l'intention de se marier, elle doit prendre des cours de fiqh sur le mariage. Mais la personne qui n'a pas l'intention de se marier ou qui ne s'est jamais mariée, elle n'est pas obligée. Donc ça, après, c'est en fonction des besoins de la personne. Et encore une fois, les toulabul ilm, eux, ils vont devoir avoir accès à tout ça, plus ou moins en détail, suivant le niveau de la personne et suivant ce que la personne recherche. Mais ça, voilà, c'est les toulabul ilm. De toute façon, ils vont y avoir accès. Mais les gens qui sont pas forcément des étudiants de la connaissance sacrée, mais qui font ce qu'Allah leur demande de faire, ils n'ont pas besoin d'avoir accès à tout ça. C'est seulement s'il y a un besoin. Mais bien sûr, les ribadates et tout ça, c'est essentiel parce que c'est obligatoire pour tout le monde. Ensuite, il y a le fiqh des menstrues pour les femmes, qui est extrêmement important. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qu'il y a un fiqh particulier. Et elles ne savent pas en fait que le cycle menstruel a des règles particulières dans le fiqh des salats, des prières. C'est-à-dire que il y a parfois il y a des femmes qui vont prier alors qu'elles n'ont pas besoin de prier et elles ne vont pas prier lorsqu'elles doivent prier. Et tout ça, c'est essentiel de le savoir parce que ça peut faire perdre des années de prière à une personne. Où ça peut vraiment rendre la vie difficile à une personne parce qu'elle se pose les mêmes questions tous les mois, alors qu'il suffirait simplement de prendre des cours avec une personne, une spécialiste, un spécialiste, et puis c'est fini. Après, elle a son cahier ou son application et elle sait quoi faire chaque mois. Mais il y a des règles et chaque madhhab est différent à ce niveau-là. Et il faut vraiment ne pas prendre d'ici et là parce que ça, là, c'est vraiment le sujet, un des sujets les plus difficiles. Du fiqh. Donc, il faut s'en tenir à son madhhab et essayer du mieux qu'on peut de commencer tôt. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard hein, pour se lancer, mais il est essentiel que quand une personne connaît ce fiqh, qu'elle l'enseigne à ses filles, à ses nièces, aux enfants, aux filles, parce que aux jeunes. Parce que plus on connaît tout ça tôt, plus, alhamdoulilah, c'est fait, quoi. C'est fait, on connaît et on n'aura pas de problème plus tard. Mais si plus on s'y prend tard, plus c'est compliqué. Après, les femmes aussi doivent faire attention à leur alimentation, boire certaines plantes, faire attention au stress. Parce que tout ça peut avoir un impact sur ce qu'elles devront faire. Ou pas faire dans le fiqh des menstrues. Donc, mais ça, après, la personne qui prend des cours comprend ce que je veux dire.
Le sixième point, c'est la aqida, que l'on traduit souvent en croyance ou dogme en français. Alors, la aqida, ça englobe plusieurs choses. Ça englobe les ilahiyat. Alors, ça, c'est ce qui concerne Allah. Les noms d'Allah, les caractéristiques d'Allah, ce qu'on doit savoir sur Allah. Ensuite, il y a les nubuwat, ce qui concerne les prophètes, en fait, ce qu'on doit savoir sur les prophètes, ce qu'on doit croire à propos des prophètes, ce qui est impossible de venir de la part des prophètes. Et il y a aussi les sam'iyat, qui viennent de la racine sin, mim, ayn, en arabe. Donc, sami'a yasma'u, qui signifie entendre. Les sam'iyat, en fait, c'est ce que l'on nous a dit, mais ce qu'on n'a pas vu, qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut même pas s'imaginer, parce que c'est vraiment inimaginable. Et ça concerne, par exemple, le barzakh, la akhira, le sirat. Bien sûr, dans la tête, on peut avoir une image, mais ça ne sera jamais ce que c'est en réalité, en fait. Donc, la aqida, c'est bien, en fait, d'avoir une connaissance de ces points-là, sans forcément rentrer dans les détails, parce que c'est vrai que la aqida, c'est complexe. Et on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Après, ça dépend de la personne, ses besoins, et si c'est un talib ou l'ilm ou pas. Mais c'est important en fait parce que ça nous enlève le doute et ça rend la croyance du sunni claire en fait. En tant que sunni, qu'est-ce que, ou sunnia, qu'est-ce que je crois en fait? Qu'est-ce qui m'incombe? Donc voilà. Après, bien sûr, il y a plusieurs mazahib comme dans tous les aspects de la connaissance sacrée. Il y a des mazahib dans tout, des différentes écoles dans tout. Il y a les Maturidi, les Ash'ari et les Athari. Et alhamdoulilah, ces écoles sont valides, donc on fait avec ce que l'enseignant de confiance nous donne. Et alhamdoulilah, ça ira très bien.
Ensuite, pour finir, il est important aussi de ne pas être sectaire. L'islam a énormément de madhahib. Là, je ne parle pas de madhahib de fiqh ou de madhahib de aqida, mais je parle de madhahib de la manière dont les gens interprètent et vivent leur islam. Donc, on a énormément de groupes. On a les soufis, on a les salafis, on a les tablir. On en a plein partout dans le monde. Et à partir du moment voilà, où on est d'accord sur les points les plus essentiels, sur les fondations de l'islam, les points voilà, essentiels au bon fonctionnement, au bon fonctionnement de la pratique de la religion, alhamdoulillah, on accepte la diversité. Parce qu'il y aura toujours diversité. L'être humain est tellement complexe qu'on ne peut pas, en fait, on ne peut pas penser pareil. On ne peut pas vivre l'islam tous de la même manière. On ne peut pas interpréter les choses de la même manière parce que les expériences de la vie sont complètement différentes d'une personne à une autre. Et du coup, tout ça, ça va influencer ce que la personne veut dans sa vie et ce que la personne préfère. Donc, on peut très bien être plus à l'aise avec un groupe plutôt qu'avec un autre, tout à fait. Mais après, il faut pas rester, il faut pas se fermer, il faut pas être sectaire parce que on peut apprendre de tout le monde, subhanallah. Il faut vraiment penser que Allah a un cadeau pour nous derrière chaque personne. Même bien sûr si ce sont des gens qui ne sont pas dans notre religion, et évidemment, enfin, avec tout, avec l'humanité. Enfin, alors qu'en est-il des gens qui font partie de notre communauté? On peut apprendre de tout le monde. Il y a peut-être des gens avec qui on va pas être très à l'aise parce que voilà, ils sont un peu sévères ou voilà, ils ont une manière d'interpréter qui est assez littérale et voilà, ça nous correspond peut-être pas tout à fait. Mais d'un autre côté, ça peut être des excellents récitateurs de Coran. Et ça peut être des gens qui sont extrêmement généreux avec la Oumma qui invite les musulmans constamment à manger chez eux, où ils organisent des majlis chez eux pour la Oumma tout entière. Donc, subhanallah, cette personne, elle a énormément de belles qualités. Donc, il faut se focaliser sur ça plutôt que sur le négatif. Parce qu'encore une fois, on n'aura pas tout ce qu'on veut dans cette dunya. Enfin, on n'aura jamais tout ce qu'on veut. On prend le bien et on laisse ce qui nous convient pas, tout simplement. On peut apprendre, plus en fait on apprend d'horizons différents, plus on apprend d'enseignants qui viennent de madhahib différents ou de manière, voilà, d'une école où on n'est pas forcément habitué. On va apprendre des choses, machin, là, qui sont... On va apprendre bien plus en fait que ce qu'il y a dans les livres. On va apprendre à avoir de l'empathie. On va développer une grande ouverture d'esprit. On va vraiment voir le monde différemment, subhanallah. On va voir la richesse de l'islam et surtout la richesse des musulmans. Incroyable, subhanallah. Tous ces ulémas, tous ces gens en fait qui contribuent à l'islam, qui apportent leur compréhension, leur sagesse, leur expérience. Il y a tellement de choses, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, hein, depuis le début on le dit, c'est pour ça que ça ne suffit pas de l'apprendre dans les livres et sur Internet parce qu'on n'a pas accès à ça et on devient fermé d'esprit. Et on devient aussi fermé d'esprit quand on s'accroche à un groupe et c'est tout. Et on se dit, voilà, mon cher, mashallah, c'est le meilleur des chers et presque la science infuse et il a presque... Mais non, c'est pas bon parce que il n'y a personne, personne dans ce monde qui est correct à 100% sur la pratique de l'islam. Personne. Il n'y avait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pratiquait vraiment l'islam à 100% de la meilleure des manières et on essaye de le suivre lui avec bien sûr l'aide des chouyours et des cheikhats du mieux qu'on peut, mais après de dire que voilà, je m'accroche à eux parce que ce sont les meilleurs et ils sont dans le haqq et bah, tout le reste, ça va pas. Non, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Dans ce cas-là, il faut vraiment revoir sa compréhension de l'islam. Il faut vraiment revenir aux sources et essayer d'être plus tolérant et de prendre des cours avec d'autres personnes pour laisser entrer la lumière. Parce que si on s'attache trop à un groupe plus qu'à un autre et on devient sectaire, et là je parle d'une mauvaise manière, c'est bien d'être attaché à un groupe, bien sûr, et d'aimer les musulmans et les chouïrs de cette communauté, de ce groupe, alhamdoulilah. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas le faire au détriment du bien-être des autres ou au détriment de son bien-être. Parce qu'on a besoin de la lumière des autres, on a besoin de la lumière de tout le monde. Et comme je l'ai dit, on apprend de tout le monde. Donc c'est important de se voir tous comme musulmans et pas de voir nos différences comme, comme une mauvaise chose, comme quelque chose qu'il faut critiquer à tout prix, qu'il faut voir comme « ah ». Non, parce qu'il y a l'émergence en fait de tous ces groupes, elles ont une raison historique. Et si on revient à la raison historique, on comprend tout à fait pourquoi ces groupes sont là de nos jours. Et ça peut nous aider à remettre les choses en perspective. Après, bien sûr, on ne peut pas tout accepter. Enfin, on accepte là où il y a une base avérée. On n'accepte pas tout et n'importe quoi. C'est encore pour ça, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut avoir un enseignant, il faut être guidé. C'est primordial. Mais je parle là vraiment du sectarisme dont malheureusement on a vu les conséquences et on en voit encore les conséquences dans notre contexte à nous, par exemple en France et en Occident d'une manière générale. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.